Chapitre 8. La danse des spectres. La vérité est comme le soleil. Elle laisse tout voir, mais ne se laisse pas regarder. Victor Hugo. 1.
Debout là-dedans.
La voix de Karadec me fit tressaillir. J'ouvris les yeux en sursautant. J'étais en nage, mon cœur battait la chamade, et un goût de cendre se répandait dans ma bouche.
Comment t'es entré, putain ? J'ai toujours le double des clés.
Un pain de campagne sous un bras, un sac de course sous l'autre, il revenait visiblement de l'épicerie-boulangerie du coin de la rue. J'avais du sable sous les paupières et un début de nausée. Deux nuits blanches d'affilée, c'était plus que ce que mon corps pouvait supporter. J'écrasai deux bâillements coup sur coup avant de me lever péniblement de mon fauteuil pour rejoindre Marc dans la cuisine. Un coup d'œil à l'horloge murale. Presque 8 heures.
Merde !
La fatigue m'était tombée dessus par surprise et m'avait emporté pendant plus d'une heure.
« J'ai une mauvaise nouvelle »,
annonça Marc en allumant la cafetière. Pour la première fois depuis son irruption, je le regardais dans les yeux. Sa mine sombre ne laissait rien augurer de bon.
« Comment les choses pourraient-elles être pires ? Il s'agit de Clotilde Blondel. »«
La proviseure du lycée ?» Il acquiesça de la tête.
« J'en reviens à l'instant de Sainte-Cécile. »
Je n'en croyais pas mes oreilles.
« Tu y es allé sans moi ?»« Je suis venu te chercher il y a 1 heure, » s'agaça-t-il. « Mais tu dormais comme une souche, alors j'ai décidé de m'y rendre seul. J'ai passé la nuit à réfléchir. Blondel est l'une de nos seules pistes. Si j'ai bien compris ce que tu m'as raconté, elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle t'a déjà dit. Je pensais qu'après avoir vu la vidéo de l'agression de sa protégée, elle prendrait peur et se mettrait à table. »
Avant de poursuivre, il tassa le café moulu dans le porte-filtre.
Mais lorsque je suis arrivé rue de Grenelle, il y avait pléthore de flics devant le portail du lycée. J'en ai reconnu certains. Des mecs de la 3e DPJ. Toute la bande de Ludovic Cassagne. J'ai fait profil bas pour qu'ils me repèrent pas, et je suis resté planqué dans ma caisse, jusqu'à ce qu'ils partent.
J'eus un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que les policiers foutaient à Sainte-Cécile ?
C'est le proviseur adjoint qui les a appelés. Le corps de Clotilde Blondel a été retrouvé inanimé dans la cour de l'école.
J'émergeais brutalement de ma léthargie, sans être certain d'avoir tout compris.
« J'ai pu interroger le jardinier, » poursuivit Marc en mettant à griller des tranches de pain. « C'est lui qui a découvert Blondel en prenant son service à 6 heures ce matin. Les flics pensent que quelqu'un a balancé la directrice à travers la vitre de son bureau. Une chute de 3 étages.
« Elle est morte ?» Marc eut une moue dubitative.
D'après ce que m'a dit le type, elle respirait encore lorsqu'il l'a trouvée. Mais elle était dans un état critique.
Il sortit un calepin de la poche de son jean et chaussa ses lunettes pour déchiffrer ses notes.
Les secours l'ont transféré en urgence à l'hôpital Cochin.
Je pris mon téléphone. Je ne connaissais personne à Cochin, mais j'avais un cousin, Alexandre Leck, qui était responsable du pôle cardiologie de l'hôpital Necker. Je lui laissai un message sur son répondeur en lui demandant d'activer ses réseaux et de me tenir au courant de l'évolution de l'état de santé de Clotilde Blondel. Puis je m'effondrai sur la banquette, gagné par la panique, écrasé par la culpabilité. Tout cela était ma faute. En poussant Anna dans ses retranchements, je l'avais forcée à me révéler une vérité qui ne devait pas l'être. Sans le vouloir, j'avais libéré les fantômes tragiques du passé, qui se déchaînaient à présent dans un torrent de violence. 2.
Giron, papa, Giron !
Encore ensommeillé, Théo émergea de sa chambre en trottinant devant moi et me précéda jusqu'au salon. Le sourire aux lèvres, il attrapa le biberon que je venais de lui préparer avant de s'installer dans sa nacelle. Les yeux brillants, fixes et grands ouverts, il suçait la tétine avec avidité, comme si sa vie en dépendait. Je regardais son beau visage, ses boucles blondes, son nez retroussé. Son regard aigue-marine, aussi pur que limpide, en essayant d'y puiser des forces et de l'espoir. Sa tasse de café à la main, Marc déambulait devant mon panneau de liège.
« C'est cette photo qu'elle t'a montrée, n'est-ce pas ? »
devina-t-il en pointant une impression en couleur punaisée au mur. J'approuvai de la tête. La photo représentait les corps carbonisés des 3 adolescentes enlevées par Kiefer. À présent, je pouvais mettre un nom sur ses victimes. Louise Gauthier, Camille Masson, Chloé Deschanel. Où l'as-tu retrouvé ? Demanda-t-il sans quitter l'image des yeux. Dans un numéro hors série de la presse régionale. Un spécial fait divers coédité par La Voix du Nord et Le Républicain Lorrain. Le cliché illustrait une double page sur Kiefer et son repère de l'horreur. Étrange d'ailleurs que le rédacteur en chef ait laissé passer une illustration comme ça. Marc prit une gorgée de café en soupirant. Il plissa les yeux et pendant 5 minutes survola les articles que j'avais accrochés dans l'ordre chronologique. Comment vois-tu les choses ? Pensif, il ouvrit la vitre pour pouvoir fumer, posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et improvisa un scénario.
Mai 2005. Claire Carlyle est enlevée par Kiefer à la gare de Libourne. Il la ramène en bagnole jusqu'à sa tanière dans l'est de la France. Là, le pédophile a déjà une captive, la petite Louise, qu'il a capturée 6 mois plus tôt en Bretagne. Pendant des mois, les deux gamines vivent l'enfer. Kiefer continue d'étoffer son harem sordide. Il enlève Camille Masson à la fin de l'année 2006 et Chloé Deschanel au printemps suivant.
Jusqu'ici, on est d'accord.
Octobre 2007. Claire est prisonnière depuis 2 ans et demi. Pour mieux abuser de ses captives, Kiefer les gaffe de somnifères et de tranquillisants. De plus en plus stressé, il commence à en prendre lui aussi. Un jour, Claire profite d'un relâchement de la vigilance de son geôlier pour se faire la belle. En s'apercevant de sa disparition, Kiefer panique. Il s'attend à voir débarquer les flics d'un instant à l'autre. Et pour ne pas se faire prendre, préfère tuer ses captives avant de se suicider en mettant le feu à sa baraque. Et
là, je te suis plus.
Explique-toi.
Je me rapprochai de la fenêtre et m'assis sur le coin de la table. La maison de Kiefer était un vrai coffre-fort. Des cellules individuelles, des portes blindées, un système d'alarme avec verrouillage automatique. Je pense pas que Claire ait pu s'en évader comme ça.
Karadek balaya l'argument. On s'échappe de toutes les prisons.
D'accord, concédai-je. Admettons. Claire parvient à sortir de la maison. Je me levai, attrapai un stylo et pointai sur le panneau un extrait de carte Michelin imprimé au format A3.
T'as vu où se situe la baraque ? En plein milieu de la forêt de la Petite Pierre. À pied, il faudrait des heures pour rejoindre la première zone d'habitation. Même si c'était fait surprendre, Kiefer aurait eu tout le temps de rattraper la gamine. Claire lui a peut-être piqué sa voiture.
Non, on a retrouvé son pick-up et sa moto devant sa maison. Et d'après tout ce que j'ai pu lire, Kiefer n'avait pas d'autre véhicule.
Karadek continua à réfléchir à voix haute. Alors qu'elle s'enfuyait, elle a rencontré quelqu'un sur la route qui leur a pris en stop.
Tu plaisantes ? Avec le bruit médiatique qu'a fait l'affaire, la personne se serait signalée.
Et si Claire s'est vraiment échappée, comment expliques-tu qu'elle n'ait pas donné l'alerte ? Ne serait-ce que pour sauver les autres filles ? Comment expliques-tu qu'elle se soit jamais manifestée ? Pourquoi refaire sa vie à Paris alors que sa mère, ses amis, son école se trouvent à New York ? Je l'explique pas. Justement.
Bon. Pour les autres, elles savaient pas forcément qu'elles étaient là, mais pour le fric, les 400 000 ou 500 000 euros en liquide que devait contenir le sac à la base.
Elle l'a piqué à Kiefer, hasarda Karadek.
Là encore, son hypothèse ne tenait pas. Les flics ont passé ses comptes au peigne fin. Heinz Kiefer s'était lourdement endetté pour financer la construction de sa maison. Il avait aucune économie. Il tapait même sa mère qui lui versait 500 euros tous les mois.
Marc écrasa sa cigarette dans les géraniums, sembla chasser une pensée découragée d'un geste agacé et s'anima de nouveau. Raphaël, pour retrouver Claire, il faut revenir aux fondamentaux. Posons-nous les bonnes questions. T'as bossé sur le dossier toute la nuit. À toi de me dire lesquelles encadrent notre enquête.
Je pris un marqueur et déchirai la feuille raturée de mon vieux paperboard pour disposer d'une zone vierge sur laquelle je listai plusieurs interrogations. Qui a enfermé Claire dans ce box de banlieue ? Qui l'en a fait sortir ? Pourquoi la retient-on toujours prisonnière ? Le flic choisit de rebondir sur la dernière question.
On la retient prisonnière parce qu'elle s'apprêtait à te révéler la vérité. Anna s'apprêtait à t'avouer qu'elle était Claire Carlyle.
Marc, tu m'as toujours dit que dans une enquête, la seule question valable était celle du mobile.
Et c'est vrai. Dans le cas qui nous concerne, ça revient à se demander qui allait être gêné par la révélation de Claire. Qui subirait un préjudice si on apprenait soudain qu'Anna Becker était en réalité la petite Claire Carlyle, enlevée 10 ans plus tôt par Heinz Kiefer.
Pendant quelques instants, la question flotta dans l'air. Mais aucun de nous deux ne s'en saisit. Et l'impression que nous avions eue d'avoir un peu avancé dans notre réflexion s'évapora. L'essentiel nous échappait encore.
3.
Assis sur un tabouret, son bavoir noué autour du cou, Théo dévorait sa tartine de miel. Installé près de lui, après avoir avalé une énième tasse de café, Marc élaborait déjà d'autres hypothèses et affirmait de nouvelles convictions.
Il faut reprendre l'enquête sur Hinskiefer. Retourner sur les lieux du drame. Découvrir ce qui s'est passé dans la nuit qui a précédé l'incendie de la maison.
Pour ma part, je n'étais pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Depuis quelques minutes, je commençais à avoir conscience d'une évidence. Marc voyait la situation comme un flic, tandis que moi, je l'analysais comme un romancier. Tu te souviens de nos conversations sur l'écriture, Marc? Lorsque tu m'as demandé comment je construisais mes personnages, je t'ai répondu que je me lançais jamais dans un roman sans connaître parfaitement le passé de mes héros.
Tu fais une sorte de fiche biographique pour chaque personnage, c'est ça?
Oui, et c'est à cette occasion que je t'avais parlé du ghost.
Rappelle-moi ce que c'est, déjà.
Le ghost, le fantôme, le spectre, ce sont des noms que certains professeurs de dramaturgie emploient pour désigner un événement charnière, un bouleversement ancré dans le passé du personnage qui continue à le hanter aujourd'hui.
Son talon d'Achille.
En quelque sorte. Un choc biographique, un refoulé, un secret qui explique sa personnalité, sa psychologie, son intériorité, ainsi qu'une bonne partie de ses actions. Il me regarda essuyer la frimousse toute collante de Théo.
Où veux-tu en venir, au juste ?
Il faut que je trouve le ghost de Claire Carlyle.
Tu le trouveras lorsque nous saurons ce qui s'est réellement passé dans la maison de Kiefer la nuit qui a précédé l'incendie.
Pas nécessairement, je crois qu'il y a autre chose. Une autre vérité qui expliquerait pourquoi, si elle a vraiment réussi à s'échapper, Claire Carlyle n'a pas donné l'alerte, ni jamais cherché à revoir sa famille.
Et où se trouve cette explication, selon toi ?
Là où naissent toutes les explications du monde. Sur le territoire de l'enfance.
À Harlem ?
Demanda-t-il en reprenant une gorgée de café. Parfaitement. Voilà ce que je te propose, Marc. Tu continues l'enquête en France, et je la poursuis aux États-Unis. Comme un personnage de bande dessinée, Karadec manqua de s'étouffer et recracha son café. Lorsque sa quinte de toux cessa, il me regarda, incrédule.
T'es pas sérieux, j'espère.
4. Au rond-point de la place d'Italie, notre voiture bifurqua, boulevard Vincent Auriol.
Auto, papa, auto!
Assis sur mes genoux, à l'arrière du taxi, Théo était le plus heureux des petits garçons. Les deux mains plaquées contre la vitre, il s'amusait du spectacle de la circulation parisienne. Quant à moi, le nez enfoui dans ses cheveux à l'odeur de blé, je puisais dans son enthousiasme un peu de l'optimisme dont j'avais grand besoin. Nous étions en route vers l'aéroport. J'avais réussi à rallier Marc à ma cause. En quelques clics, j'avais réservé un billet d'avion pour New York, puis j'avais jeté des affaires pour Théo et moi dans une valise et booké une chambre d'hôtel. Mon téléphone vibra. Je l'extirpai de ma poche, juste à temps pour prendre l'appel. Le numéro sur l'écran était celui de mon cousin, cardiologue à l'hôpital Necker.
« Salut Alexandre, merci de me rappeler. »«
Salut cousin, ça gaze ?»«
Compliqué en ce moment. Et toi, Sonia, les enfants ?»«
Ça pousse vite. C'est Théo que j'entends barjaquer derrière toi ?»«
Oui, on est dans un taxi. »«
Embrasse-le pour moi. Écoute, j'ai pu avoir des nouvelles de ton ami Clotilde Blondel. »«
Qu'est-ce que ça donne ?»«
Je suis désolé, mais son cas est très grave. » Fracture de plusieurs côtes, d'une jambe et du bassin, luxation de la hanche, traumatisme crânien sévère. Quand j'ai appelé mon pote de Cochin, elle est encore sur le billard.
Son pronostic vital est engagé ?
Pour l'instant, c'est difficile à dire. Tu sais, dans ce genre de polytrauma, il y a des risques multiples.
D'hématome au cerveau ?
Oui, et de tout ce qui touche au système respiratoire, pneumothorax, hémothorax, sans parler des éventuelles lésions rachidiennes.
Un double bip assura notre conversation. Un numéro en 02.
Excuse-moi Alex, j'ai quelqu'un sur une autre ligne. Un truc important, tu restes en veille et tu me tiens au courant de l'évolution de la situation ?
Ça marche, cousin.
Je le remerciai et pris le nouvel appel. Comme je l'espérais, il s'agissait de Marlène Delatour, la journaliste de Sud-Ouest qui avait enquêté sur l'affaire Carlyle. Cette nuit, après avoir lu son article, j'avais retrouvé sa trace sur Internet. Elle avait changé d'employeur et travaillait à présent pour le journal Ouest France. Je lui avais envoyé un mail en lui expliquant que j'écrivais une sorte d'anthologie des crimes du XXIe siècle et que j'aurais voulu recueillir ses impressions et ses souvenirs sur l'affaire.
Merci de m'appeler.
On s'est croisés il y a quelques années, je vous avais interviewé lors du salon Étonnant Voyageur en 2011.
Bien sûr, je m'en souviens, mentis-je.
Alors comme ça, vous arrêtez les romans pour écrire des essais ?
Dans certains faits divers, l'horreur dépasse la fiction.
Je vous l'accorde.
Je coinçai mon téléphone dans le creux de mon épaule. Ainsi, j'avais les mains libres pour maîtriser mon fils. Debout sur le siège, Théo gigotait pour apercevoir la rame qui entrait en gare sur le pont du métro aérien.
« Vous vous souvenez bien de l'affaire Carlyle ?» demandai-je à Marlène.
« Ça, c'est certain. Pour vous dire la vérité, à l'époque, je m'étais pas mal identifié à Claire. On avait des points communs. Père inconnu, élevés toutes les deux par une mère célibataire, des origines populaires, l'école comme moyen d'ascension sociale. C'était un peu ma petite sœur américaine.
Vous êtes certaine que Claire ne connaissait pas son père ?
À mon avis, même la mère de Claire ne savait pas qu'il avait mis enceinte.
Vous êtes sûre ?
J'entendis son soupir à l'autre bout du fil.
Pratiquement. En tout cas, c'est ce que m'a laissé entendre Joyce Carlyle lorsque je l'ai interrogée sur le sujet. C'était lors de sa venue en France 2 semaines après l'enlèvement de Claire, au moment où l'enquête s'enlisait. Je ne l'ai pas écrit dans l'article, mais j'ai appris qu'avant la naissance de sa fille, Joyce avait connu des années de défonce. Crack, héroïne, cristal, elle avait touché à tout. Pendant 2 ou 3 ans, à la fin des années 80, elle enchaînait les passes à $10 pour payer sa cam.
Cette révélation me ficha la nausée. Après une hésitation, je résistais à la tentation de révéler à mon interlocutrice que j'étais en route vers New York. Marlène Delatour était une bonne journaliste. Si elle me sentait à ce point investie, elle allait flairer le scoop potentiel. Après m'être donné du mal pour tenir les flics à l'écart de mes problèmes, je n'allais pas me jeter dans la gueule du loup en me confiant à une journaliste. J'essayais de prendre un ton dégagé pour demander.
« Vous avez eu d'autres contacts avec Joyce depuis ce temps-là ?»
Marlène marqua un silence étonné avant de m'expliquer.
« J'aurais eu du mal. Elle est morte 2 semaines plus tard. »
Je tombai des nues.
« Je n'ai lu ça nulle part.
Moi-même, je ne l'ai su que bien après, à l'été 2010, alors que j'étais en vacances à New York. » En visitant Harlem, j'ai eu envie d'aller jeter un coup d'œil à la maison dans laquelle Claire avait passé son enfance. Son adresse m'avait marqué. 6 Bilberry Street, la rue de la Myrtille. Ce n'est qu'une fois sur place, en discutant avec les commerçants du quartier, que j'ai appris que Joyce était décédée à la fin du mois de juin 2005, seulement 4 semaines après l'enlèvement de sa fille.
Si elle était exacte, cette information changeait beaucoup de choses.
De quoi est-elle morte ?
À votre avis ?
Overdose d'héroïne, chez elle. Elle était restée clean pendant 15 ans, mais le drame l'a fait replonger. Et après un sevrage aussi long, même des doses assez faibles peuvent vous tuer.
Le taxi avait traversé le pont de Bercy et roulait sur les quais. De l'autre côté de la Seine, le paysage défilait. La piscine Joséphine Baker qui flottait sur le fleuve, les tours angulaires de la bibliothèque François Mitterrand, les péniches paresseuses et les arches basses du pont de Tolbiac.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur l'affaire ?
Là, comme ça, brûle pour point. Je vois pas trop, mais je peux essayer de retrouver mes notes.
Ce serait très...
Elle m'interrompit.
Attendez, un truc me revient à l'esprit. Une rumeur persistante qui circulait au moment de l'enquête. Joyce aurait engagé un enquêteur privé pour mener ses propres recherches.
D'où tenez-vous ça ?
Je sortais avec un type à l'époque, Richard Angeli, un jeune flic de la brigade criminelle de Bordeaux. Entre nous, c'était un connard de première, mais il avait une ambition folle et me refilait parfois des tuyaux.
Je me contorsionnais pour sortir un stylo de ma poche et noter le nom du flic sur le seul papier que j'avais sous la main. « Tchoupi fait des bêtises », le livre préféré de mon fils que j'avais emporté pour l'occuper pendant le voyage.
C'était quoi son job ?
Il était procédurier dans le groupe qui enquêtait sur la disparition de Claire Carlyle. D'après ce qu'il me racontait, ses collègues et le juge étaient furax à la perspective de voir l'enquête parasitée par quelqu'un d'extérieur.
C'était qui ? Un détective américain ?
J'en sais rien, j'ai un peu gratté de ce côté-là, mais j'ai jamais rien déterré de concret.
Un silence, puis...
Raphaël, si vous apprenez un élément nouveau, vous me tiendrez au courant ?
Bien sûr.
Je le devinais à sa voix. Il n'avait fallu que quelques minutes pour que Marlène Delatour soit de nouveau contaminée par le virus Claire Carlyle. À présent, le taxi avait dépassé la porte de Bercy et filait sur le périph. Mon fils s'était calmé. Il serrait dans ses bras son chien en peluche, le fidèle Fifi.
Dans cette enquête, reprit la jeune femme, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose nous échappait. La police, les journalistes, les juges, tout le monde s'est cassé les dents sur cette affaire. Même après la découverte des traces d'ADN chez Heinz Kiefer, l'histoire laissait un goût d'inachevé.
C'était la première fois que j'entendais quelqu'un contester la version officielle.
Qu'est-ce que vous sous-entendez exactement ?
Kiefer correspondait bien au portrait robot ?
Un portrait robot établi sur un seul témoignage, rappela-t-elle.
Celui de la petite Olivia Mendelssohn,
Une gamine que les flics n'ont pu interroger que quelques heures, puisque ses parents l'ont rapatriée à New York dès le lendemain.
Là, je vous suis plus, vous remettez en cause les conclusions de...
Non, non, coupa-t-elle. Je n'ai pas de théorie alternative. Je n'ai pas d'autres preuves. Mais j'ai toujours trouvé ça étrange. Un seul témoin lors de l'enlèvement. Puis plus tard, des traces d'ADN, mais pas de corps. Tout ça vous semble pas un peu suspect ?
Ce fut à mon tour de soupirer. Vous, les journalistes, vous voyez le mal partout.
Et vous, les écrivains, vous avez un problème avec la réalité.